Donc Cheikh Al-Albani dit, il n'y a aucune preuve de l'existence de ce silence que marque certains imams de notre époque, mais si malgré cela, l'individu priait derrière un imam qui était convaincu qu'il faut marquer ce silence pour que ceux qui prient derrière puissent lire la Fatiha, donc celui qui prie derrière ces personnes, ces imams, même s'il n'est pas convaincu par leur avis, il peut lire, au moment de ce silence, la Fatiha. Al-qira'atu ba'da al-Fatiha. Que doit lire la personne après qu'il ait achevé la lecture de la surat al-Fatiha? وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مِنْ سُورَةٍ أُخْرَى حَتَّى فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَوْ بَعْضَ الْآيَاتِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً أُخْرَى إِلَى السُّنَّةِ بِلِيرْ إِنْ سُورَةٍ أَخْرَى لَا لَكْتُورَ لَسُورَةِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَوْ بَعْضَ الْآيَاتِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. L'imam, au cours de la prière mortuaire, au cours de la prière funéraire, qui est comme on fait la prière après pour le mort, après qu'il était lavé et avant de l'enterrer, certains pensent qu'il n'est pas de la sunna de lire une sourate après sourate Fatiha. Cheikh Al-Albani corrige cette erreur et dit que même au cours de cette prière, il est de la sunna de lire une sourate après la lecture de la sourate Fatiha. Il dit, même s'il ne s'agit que de quelques versets, c'est-à-dire si on prend quelques versets choisis parmi plusieurs autres versets, qu'on ne lise pas une sourate en entier. ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prieur, donc puisque le prieur doit prier comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parfois, Cheikh Al-Albani a dit, parfois il est de la sunna de lire, d'avoir une longue lecture. ويقصرها احيانا اي de la sunna aussi de lire parfois en d'avoir une lecture courte surtout si par exemple la personne est en voyage ou bien si elle a atteinte d'une toux ou bien si elle est malade ou bien s'il s'agit de l'imam quand l'imam prie et qu'il entend le pleur d'un enfant bien sûr cet enfant va déranger son père ou bien sa mère qui va être inquiété peut-être par les cris du petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par clémence il à cause de ses pleurs il raccourcissait sa prière. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا. La lecture, la longueur de la lecture varie selon les prières. فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس. La lecture que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de la prière de l'aube était beaucoup plus longue que la lecture qu'il faisait lors des autres prières. En deuxième position, on vient à Salat al-Dhuhr, donc il a prié compris le zénith, ou plutôt juste un peu après le zénith, c'est-à-dire on attend que le moment du zénith arrive. À ce moment-là, les ombres des choses ont une taille minimale. Ensuite, juste au moment où la taille commence à s'allonger, la taille des ombres commence à s'allonger, les choses de direction aussi. À ce moment-là, on peut prier Salat al-Dhuhr, mais au moment du zénith lui-même, il n'est pas permis de prier. Thumma al-Asr. Le moment du Asr, comment le connaître? Au niveau de la Mecque, c'est simple, car le soleil est au-dessus des têtes tout au long de la nuit. Donc, c'est lorsque toute chose aura un nombre dont la taille sera égale à la taille de l'objet lui-même, c'est à ce moment-là que l'Asr, que le moment de l'Asr, a commencé. Ça, c'est à la Mecque. Mais quand on se rapproche de Paul, quand on change de latitude, les ombres des objets ont une taille beaucoup plus grande. Et plus on s'approche de Paul, plus le rayon du soleil s'incline. Donc, comment connaître l'heure du Asr si on n'est pas à la Mecque? Il faut compter la taille minimale, sa longueur, et la diminuer de la taille qu'elle aura juste après. Quand la taille totale sera égale à la taille de l'objet plus la taille minimale lors du zénith, c'est à ce moment-là que l'heure du Asr aura commencé. Je donne un exemple. Le soleil vient de se lever. Les tailles, bien sûr, sont, les tailles des ombres sont maximales. Plus le soleil se lève, plus les tailles des ombres commencent à diminuer. Et diminuer doucement, doucement, jusqu'au zénith. Au zénith, les ombres ont une taille minimale. Puis ensuite, cette ombre se stabilise un peu, puis elle change de direction et sa taille commence à s'allonger. Donc on dit à ce moment-là qu'on peut prier l'eau. Il faut calculer la taille de cette ombre. Si elle fait par exemple pour un objet précis 10 cm et que l'objet lui-même fasse par exemple 40 cm, quand la taille de l'ombre aura 50 cm, c'est-à-dire la taille de l'objet lui-même 40 cm plus 10 cm qui est la taille de l'ombre minimale, c'est à ce moment-là qu'on peut prier l'Asr. Donc, on revient au niveau de la lecture. La lecture, donc, était plus longue au cours de l'aube, puis ensuite au cours de l'aube, qui est juste après le zénith, puis ensuite au cours de l'Asr, puis ensuite vient en avant-dernière position l'Isha, qui est la prière de la nuit, si on veut, et comment connaître son heure. C'est quand la lueur rouge que l'on voit après le coucher du soleil, quand cette lueur, bien sûr, à l'ouest disparaît, c'est à ce moment-là que l'on peut débuter la prière de l'Isha, et c'est à ce moment-là aussi que s'achève l'heure du Maghreb. Le Maghreb, bien sûr, c'est le crépuscule, lorsque le soleil se couche. C'est à ce moment-là qu'on peut prier le Maghreb. Donc, à la fin, vient le Maghreb pour la longueur de sa lecture, qui est la moins grande. والقراءه في صلاه الليل اطول من ذلك كله. La lecture que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de la prière non obligatoire de la nuit était beaucoup plus longue que celle des autres prières. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. La sunna, c'est d'avoir une lecture plus longue, plus grande au cours de la première raka, au cours de la première station de debout, donc, plus grande donc que celle de la deuxième raka, la deuxième station de debout après que l'individu se soit relevé de la prosternation, comme il sera expliqué un peu plus tard. وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. De la même façon, la longueur de la lecture au cours des deux dernières raka'at, des deux dernières stations debout, quand on prie une prière qui comporte quatre stations debout, quatre raka'at, la longueur de la lecture au cours des deux dernières raka'at équivaut à peu près à la moitié de la longueur des deux premières. قراءه الفاتحه في كل ركعه. La lecture de la Fatiha doit être effectué à chaque raka'a, à chaque station debout. Il est obligatoire de lire surat Fatiha à chaque raka'a. Il n'appelait pas raka'a, bien sûr, le cycle qui comprend la station debout puis le recours qui vient de la position où l'angle fait avec les jambes 90 degrés, un angle droit. Puis ensuite, la personne se relève, puis ensuite elle se prosterne, elle se relève de la prosternation en étant assise par terre, puis elle se prosterne une deuxième fois, puis ensuite elle se lève. Tout ceci est ainsi qu'on appelle un raka. Et ceci qui se répète au cours des prières. Il se répète 4 fois au cours des prières de Dhuhr et de l'Asr ou de l'Isha. Il se répète 3 fois seulement au cours de la prière de l'Maghrib. Et il se répète 2 fois seulement au cours de Salat al-Fajr. ويسمى الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا. يدي شيخ الأبنزي يريد إلى السنة أوسي دليل طفوة أكوخ دو درني ركعة دليل أبخي الفاتحة دليل من سورة أبلس طفوة بنشوف ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة لأكثر مما جاء في السنة فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة. Nous avons donc à l'imam de trop prolonger la prière, de trop prolonger la lecture, de l'allonger plus que ne le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela gênerait ceux qui prient derrière cet imam, et peut se trouver parmi eux une personne âgée, une personne malade, ou bien une femme dont l'enfant a besoin d'être allaité, ou bien en général toute personne qui a un besoin ou un autre. الجهر والإصرار بالقراءة ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء ويصر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة متوسط في رفع الصوت ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح لليكتور سفي أوتوا دونك سين بيرسون أكوتي لا بيرسون كي تكتب سول سي سو تروف اون بيرسون أكوتي لا بيرسون كي تكري لونتوندرا دونك سا ليكتور L'imam, au cours de cette prière, donc, doit faire entendre sa lecture à ceux qui sont derrière lui. Quelles sont ces prières où la lecture doit se faire à haute voix? Il s'agit de Salat al-Subh, qui est la prière de l'aube, Salat al-Jumu'ah, c'est la prière qui se prie au zénith du jour du vendredi, à la place de Salat al-Dhuhr, Al-Idayn, la Salat de Da'id, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, et l'Istisqa, la prière de demande à Dieu de la pluie, et le kusuf, la salat qui est priée à l'occasion d'une éclipse, et l'oulayayni, le salat al-maghribi al-isha, et les deux premières raka'a de salat al-maghrib, la prière du crépuscule, et l'isha, la prière de la soirée, la même façon, les deux premières raka'a de cette prière, la lecture sera effectué à haute voix. Il sort bien à la salat du Dhuhr et de l'Asr, et la salat du salat du Maghrib et de la salat du Isha. Par contre, la lecture se fait en silence, donc l'individu bouge, se lève, mais on ne l'entend pas lire. Ceci au cours de la prière de Dhuhr, la prière qui se fait donc juste après les minutes, et au cours de la prière de l'Asr, et au cours la troisième raka'a de Salat al-Maghrib, la prière du crépuscule, et les deux dernières raka'a de Salat al-Isha, la prière de la soirée. Et يجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. Il est permis à l'imam de lire parfois un verset à haute voix, même si la prière qui est effectuée, normalement la lecture doit se faire en silence. Pourquoi? Pour, par exemple, pour faire savoir à certaines personnes qui ne sauraient pas comment prier, qu'il faut lire. Le fait qu'ils voient l'imam prier en silence peut leur faire croire qu'il ne faut rien dire. Et si l'imam est en présence, bien sûr l'imam connaît les personnes qui prient dans sa mosquée, qui se trouve parmi ces personnes, des gens qui peuvent ignorer cet élément, il est recommandable qu'il le fasse entendre des fois, de temps en temps, un verset, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre aux gens qui entrent nouvellement dans l'islam. أما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. الوتر أنا أتلقى الوتر دي فوا لا بخير نوكتورن فوا وتر وتر سردير أنتر أن أغاب لا بخير نوكتورن الحبة صلى الله عليه وسلم يتكتو تجور avec un nombre de رقع nombre de cycles donc أنتر ainsi que aussi pour cette raison là qu'il a appelé Witr. Mais ici, Cheikh Al-Albani s'adresse généralement à ceux qui ont fini par croire que Witr est toujours la dernière raka'a qui achève la prière nocturne. En avis, ce qui est juste, c'est que Witr désigne toute la prière de la nuit. Donc il dit, il est permis de lire à haute voix, parfois, et de lire parfois, en soi-même, en silence, sans faire entendre sa lecture. Mais s'il lit à haute voix, il ne doit pas élever celle-ci, il doit lire avec une voix moyenne. Parce que le Coran, le fait de lire le Coran avec application et comme il se doit. والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. السنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. السنة هي de lire le Coran avec application, sans se presser, sans que les mots soient avalés et prononcés rapidement, et sans précipitation. بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. Mais plutôt en lisant une lecture bien claire, bien précise, qui fasse apparaître les lettres bien détachées. Et nous aidons le Coran à défauter. Et qu'il essaye, que le prieur essaye de lire le Coran avec une belle voix, de lire ainsi sa lecture du Coran. ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد donc psalmodier en suivant les règles définies et établies par les savants spécialistes de la lecture du Coran en التجويد ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية mais son embellissement de la voix ne doit pas être exagéré, on ne doit pas chanter ni prononcer le Coran à la façon que font certains en suivant des mélodies précises ou bien des tons qui n'ont pas d'origine dans la sunna. Al-fathu ala l'imam, c'est l'action d'aider l'imam, de lui souffler, si on veut, lorsque il a oublié un verset et qui n'arrive plus à faire la liaison entre les versets. وَيُشْرَعُ لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَتَقَفَّدَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ارْتُجَّ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَيُشْرَعُ لِلْمُقْتَدِي il est établi par la religion, il est recommandé par la religion que ceux qui prient derrière l'imam, ceci doit être fait dans l'ordre et ce n'est pas tous ceux qui prient derrière l'imam qui doivent se prononcer, car ceci créerait le douleur. Donc il est permis et établi que ceux qui prient derrière l'imam l'aident et lui soufflent si sa lecture est interrompue, par exemple s'il a oublié un verset ou s'il commence à hésiter. Un record, c'est l'inclinaison de la prière. Le fait
de mettre les mains sur les genoux et d'avoir le dos qui fait un angle droit avec les jambes. C'est la position qui se trouve juste après la position debout dans l'ordre des positions successives de la prière.
فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتعاد إليه نفسه. Dès qu'il achève la lecture des sourates, donc au cours de la position debout, il se tait, il marque un bref silence, juste pour reprendre son souffle. ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. Il lève ensuite ses mains de la façon décrite. Quand on a parlé du takbir par lequel l'individu entre en prière. Wa yukabbiru wa huwa wajib. Il prononce alors Allahu Akbar, et ceci est une obligation. Thumma yarka'u biqadri ma tastaqirru mafatiluhu wa ya'khudhu kullu 'udwin ma akhadha wa hadha rukn. Donc ensuite il passe à la position du rukou' qui va être décrite un peu plus tard. بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو ما أخذه يدوى غسته dans cette position la position du record au moins le temps qu'il faut pour que ces articulations reviennent à leur place, retrouvent leur rassérénation d'origine et que chaque membre retrouve sa place d'origine. Et ceci est un pilier, donc un pilier de la prière. Et s'il était délaissé, la prière ne serait pas valable et serait donc annulée. Ceci est au record. Au record, on a déjà parlé succinctement, c'est la position où la personne est debout et le dos fait un angle droit avec les jambes. Certains traduisent le record par génuflexion, ce qu'il faut parce que cela sous-entend que le genou est fléchi. Or, dans cette position, les jambes sont bien droites, il n'y a pas de flexion du genou. ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه وهذا كله واجب. Au cours de cette position, il doit mettre ses mains sur ses genoux, les paumes de ses mains sur ses genoux, en agrippant bien ses genoux. ويفرج بين أصابعه les mains sont écartées, comme s'il s'agrippait véritablement à ses genoux. Ceci est une obligation. Il doit maintenir son dos bien droit, donc le dos fait un angle droit avec les jambes, il doit être bien droit et bien plat, de façon à ce que même si on déversait de l'eau sur ce dos, l'eau se stabiliserait sur le dos et ne se déverserait pas. De la même façon, ceci, ces détails sont obligatoires. Il faut les accomplir obligatoirement. ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره. Au cours de cette position, il ne doit pas lever sa tête, il ne doit pas la tirer en arrière, ni la baisser, mais il doit être dans le plan du dos. Il doit écarter ses coudes des flancs, il ne doit pas les coller à ses flancs. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر. Il doit prononcer cette invocation au cours de son recours, au cours de cette position, il doit dire Subhana Rabbi al-Azim trois fois au plus. Subhanallah, Subhana Rabbi, on l'a vu auparavant, ça veut dire je reconnais, c'est une façon d'affirmer le fait que Dieu ne connaisse pas de défaut. C'est une façon de dire oh Dieu, et je reconnais. J'affirme que tu n'as point de défaut. Al-Azim, le majestueux. Oh, toi Dieu qui es majestueux, je reconnais que tu ne connais point de défaut.
وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن، من الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 13 بعد 100، الطبعة 11. Il y a d'autres invocations autres que celles-ci qui doivent être prononcées à ce niveau. Certaines sont longues, certaines sont moyennes, certaines sont courtes. On peut en prendre compte dans cette salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'origine. Taswiyatul arkan, le fait de faire en sorte que la durée de tous les piliers cités et les piliers qui vont être cités comme en prosternation, que cette durée soit égale. ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. Il est de la sunna de faire en sorte que la durée des piliers soit égale en longueur. De cette façon, الركوع, l'inclinaison, وقيامه, la position debout après le ركوع, c'est-à-dire deuxième position debout. Bien sûr, la première, c'est juste au début de la prière, après qu'il ait levé ses mains, au moment où il lit. Ensuite, bien sûr, il va s'incliner, il va faire le ركوع. Ensuite, il se rétablit, cette deuxième position debout, et ainsi que la prosternation, ainsi que la position assise qui se trouve entre les deux prosternations. Donc, il est de la sunna que tous ces piliers cités, soient d'une durée égale. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. Il n'est pas permis de lire le Coran au cours de l'inclinaison ni au cours de la prosternation. L'i'tidal min al-rukou, le fait de se lever de ركوع, de se rétablir, donc de revenir en position debout. ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن. Ensuite, il relève son dos. Qui donc était incliné, et ceci est un pilier. D'ailleurs, on vient de le citer parmi les piliers de la prière. ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب. Et au moment où il se rétablit, il doit dire سمع الله لمن حمده, qui veut dire que Dieu exauce ceux qui le louent. وهذا واجب, cette prononciation est une obligation. Entre parenthèses, quel est l'intérêt de dire à chaque fois ceci est un pilier, ceci est une obligation? Ceci a une importance très grande, puisque le fait d'abandonner un pilier de la prière, de ne pas l'accomplir, provoque l'annulation de la prière n'est pas recommencée. Mais le fait d'abandonner un élément qui est une obligation, bien sûr, sans faire exprès. Si par exemple une personne, sans faire exprès, abandonne un pilier de la prière, sa prière donc est annulée, mais s'il, sans faire exprès, il a oublié un élément qui a été cité comme étant un élément obligatoire, la prière n'est pas à refaire, mais la personne doit à la fin de sa prière, réparer cette faute en ajoutant deux prosternations qui sont effectuées de la même façon que sont effectuées les prosternations de la prière, ainsi que nous allons le voir. Et lorsqu'il se relève de son inclinaison, il lève ses mains de la façon qu'on a décrite au début. ثم يقول معتدلا مطمئنا ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه وهذا ركن. Ensuite, il se relève et il doit rester dans cette position jusqu'à ce que chaque os, chaque membre retrouve son apaisement d'origine. Il ne doit pas tout de suite passer à la station suivante sans s'être rassérénée. وهذا ركن, cette position debout, cette deuxième position debout est un pilier de la prière. ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد وهذا واجب على كل مصلي ولو كان مؤتما فإنه ورد القيام أما التسميع فورد الاعتدال ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد il est pas visé, il est debout, il dit Rabbana wa laka alhamd, ça veut dire ô Dieu notre Seigneur, c'est à toi que revient, c'est toi qui mérite la louange totale, la louange absolue. وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُصَلِّينَ وَلُوْكَانَ مُحْتَمًا Cette prononciation, cette formule doit être prononcée obligatoirement par tout prieur, qu'il soit l'imam ou bien qu'il prierait l'imam. Cheikh Al-Albani veut par cette parole corriger la faute que commettent plusieurs prieurs en croyant que seul l'imam doit prononcer cette parole. فَإِنَّهُ وِرْدُ الْقِيَامِ فَأَمَّا التَّسْمِيعُ فَوِرْدُ الْإِعْتِدَادِ Cette formule n'est pas prononcée quand on est debout, alors que la première formule سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَةِ doit être prononcé au cours du passage du recours à la personne debout. C'est-à-dire dès que la personne commence à relever sa tête de l'inclinaison, la personne commence à dire « Sami Allahu liman hamida » Ensuite, quand il s'est rétabli en position debout, à ce moment-là, la personne dit « Rabbana wa lak alhamd » Il y a d'autres invocations aussi que l'on peut prononcer à la place de cette formule Rabbana wa lak alhamd. Bien sûr, puisque ce petit livre est un résumé, Cheikh Al-Albani n'a pas cité toutes ces invocations, il n'a cité que celle-ci. Donc, pour en prendre compte, il faut revenir au livre d'origine. ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده وانظر إن شئت البسط في الأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم On avait vu que lors de la première position debout, donc juste au début de la prière, le prieur met ses mains sur la poitrine, la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Cheikh Al-Albani fait remarquer que ceci n'est valable que pour la première position debout et que au cours de cette deuxième position debout, qui se trouve donc entre le record et le sujoud, entre l'inclinaison et la prosternation, le prieur n'a pas à mettre ses mains sur la poitrine, et ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent prendre compte des paroles de Cheikh Al-Albani dans le livre d'origine. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. Il doit faire en sorte que la durée de cette position debout soit égale, soit à peu près égale à la durée de la position précédente qui est le record et donc l'inclinaison et tout ceci on l'avait vu auparavant. Sujoud, c'est la prosternation. ثم يقول الله أكبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا. Ensuite, puisque maintenant il s'est relevé du record, non position debout, il dit Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est le plus grand, et cette prononciation est une obligation, on va dire, ويرفع يديه أحيانا. Et des fois, le prieur peut lever les mains. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait des fois les mains lorsqu'il voulait se prosterner. Et ceci n'est pas à faire régulièrement comme les levées des mains précédentes qu'on a citées qui sont à appliquer régulièrement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait pas. Al-khururu ala al-yadayn, le fait de se prosterner sur les mains, de descendre donc vers le sol, se prosterner, de descendre sur les mains. ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ونهى عن التشبه ببروك البعير وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه
ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, il se prosterne en s'affalant sur ses mains. Il les pose donc avant ses genoux. C'est ainsi qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il a accompli sa prière lui-même sallallahu alayhi wa sallam. وَنَهَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ وَهُوَ إِنَّمَا يَخِرُّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اللَّتَيْنِ هُمَا فِي مُقَدِّمَتَيْهِ. Ceux qui ont vu la façon dont le chameau ou bien le dromadaire s'agenouille peuvent comprendre la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne ici. Le chameau descend d'abord en reposant ses pattes de devant sur le sol en les pliant. Ensuite, il plie les pattes de derrière. Or, les Arabes disent que les genoux à rukbatayn du chameau se trouve dans les pattes de devant. Donc, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire comme le chameau quand on se prosterne signifie qu'il ne faut pas mettre ses genoux avant les mains, puisque le chameau, c'est de cette façon-là qu'il s'agenouille. فَإِذَا سَجَدَ وَهُوَ رُكْنٌ اِسْتَمَدَ عَلَى كَفَّيْهِ وَبَسَطَهُمَا. Le prosterné, il se reposait sur les paumes de ses mains en allongeant ses doigts. Et la prosternation, donc, c'est un pilier de la prière. وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُمَا. Il joint ses doigts et il ne les écarte pas. Les doigts des mains, il n'a pas à les écarter autour de la prosternation, mais il doit les joindre au contraire. وَيُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ. Il dirige les doigts de ses mains vers la Qibla. La Qibla, c'est la direction de la Mecque. وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَذْوَ مِنْ كِبَيْهِ. Il doit mettre ses mains à hauteur de ses épaules. وَطَارَةً يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ أُذُنَيْهِ. Et parfois, il peut les mettre à hauteur des oreilles. وَيَرْفَعُ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ وُجُوبًا وَلَا يَبْسُطُهُمَا بَسْطَ الْكَلْبِ. Il doit obligatoirement éloigner ses bras du sol, donc les lever autant que possible, bien sûr sans que cela change la direction de ses doigts vers la Qibla, d'autant que lever autant que possible ses bras, et ne pas les allonger, ne pas les mettre sur le sol, et les allonger à la façon du chien quand il est couché. Pourquoi j'utilise cette expression à la façon du chien? Parce que le hadith, c'est ainsi qu'il dit, quand tu es prosterné, ne t'allonge pas à la façon du chien. وَيُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَهَذَا رُكْنٌ. Il doit accoler son nez, son front au sol, et ceci est un pilier. Bien sûr, on a précisé que le fait que ceci soit un pilier, si le prieur ne le fait pas, sa prière est annulée. وَيُمَكِّنُ أَيْضًا رُكْبَتَيْهِ. Il doit aussi coller au sol ses deux genoux. وَكَذَا أَطْرَافَ قَدَمَيْهِ. Les bouts des pieds, donc les doigts des pieds. وَيَنْصِبُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ وَاجِبٌ. وَيَنْصِبُهُمَا, il tient ses pieds comme s'ils étaient plantés. وَهَذَا كُلُّهُ وَاجِبٌ. Tout ceci est une obligation de la prière. وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةِ. Donc même les doigts des pieds doivent être dans la direction de la Qibla. وَيَرُسُّ عَقْبَيْهِ. Il doit accoler ses deux talons l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser d'espace entre les deux pieds ni entre les talons. لِعْتِدَالُ فِي السُّجُودِ. La raffermation et l'apaisement au cours de la prosternation. On a vu que au cours de toutes les stations successives, la personne doit observer un apaisement et ne doit pas prier d'une façon
rapide et sans connaître d'apaisement. ويجب عليه أن يعتدل في سجوده وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. Il est obligatoire qu'il s'apaise au cours de cette prosternation. Et de quelle façon? En se reposant sur ses membres, ses sept membres, les sept membres dont on a parlé, c'est-à-dire le front et le nez, en même temps, les deux paumes des mains, ou bien si on veut les deux mains, le rukbatan, les deux genoux, l'atraf qadamain, et les bouts des pieds, les doigts donc des pieds. En se reposant ainsi sur toutes ces parties, il peut s'apaiser et retrouver l'apaisement du corps du début. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا والاطمئنان في السجود ركن أيضا. Celui qui agit d'une telle façon, qui accomplit sa préparation d'une telle façon, il va s'apaiser, il va être rasséréné, et l'apaisement, l'itminan, est un pilier de la prière, car celui qui prie sans connaître l'apaisement, qui prie rapidement en passant d'une station à une autre, d'une position à une autre, en étant essoufflé, sans connaître l'apaisement en chaque station, la prière n'est pas valable. ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر. Il doit dire au cours de la prosternation, donc quand il a posé son front sur le sol, son front incliné, quand il est prosterné, il doit dire سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي on l'a traduit, je reconnais au Dieu mon Seigneur que tu ne connais pas mes défauts. الأعلى, le très haut, le plus haut. ثلاث مرات, il doit prendre cette formule trois fois ou plus. الشيخ الألباني يومض وفيه أذكار أخرى تراها في صفة الصلاة كما نبي pour les invocations. Il y a d'autres invocations, mais ici par souci d'être bref, الشيخ الألباني n'a cité que cette invocation. يستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مضمة الإجابة. Il est recommandable de recommander que la personne fasse de multiples invocations, de multiples invocations qui soient propres, ou bien qui étaient prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cet endroit, la prosternation, ou plutôt ce moment, le moment de la prosternation, est le moment le plus propice pour que Dieu exauce les vœux de ceux qui l'implorent, car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أقرب ما يكون العبد من ربه السجود فأكثر من الدعاء. Le moment où la personne est la plus proche de son Seigneur, de Dieu son Seigneur, est la prosternation. Donc, prononcez le plus de دعاء que vous pouvez, le plus d'invocations que vous pouvez. ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. On avait vu que les piliers, les différents piliers, leur longueur doit être à peu près égale. Donc de la même façon, la durée de la prosternation doit être à peu près égale à la durée du recours et des autres piliers. ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه. Il est permis de se prosterner soit sur le sol directement, donc d'apposer le front, le nez et les autres parties qui doivent toucher le sol lors de la prosternation, soit directement sur le sol ou sur la terre, ou bien sur une moquette ou un tapis, et le front peut être recouvert d'une toque, il n'y a aucun problème à ceci. Le Cheikh Al-Albani répond par là à ceux qui prétendent que le sol doit que le front doit toucher directement le sol et qu'il ne doit rien y avoir entre le front et le sol. Selon l'avis de ces personnes-là, donc, il ne serait pas permis de prier dans les mosquées actuelles puisqu'ils sont tous recouverts de moquettes ou de tapis. Mais le véritable avis, l'avis qui est vérifié, c'est qu'il est permis de prier sur les moquettes
d'avoir le front recouvert d'une toque, de chassier par exemple, il n'y a aucun problème à ceci. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. Il n'est pas permis de lire le Coran, une sourate du Coran, ou bien quelques versets du Coran, au cours de la prosternation, par un hadith qui l'interdit. الافتراش والإقعاء بين السجدتين. On vient de parler de la prosternation. Bien sûr, la personne donc maintenant va se relever de cette prosternation pour se reprosterner une deuxième fois, Comment doit-elle se tenir entre ces deux prosternations? Il y a deux façons de se tenir. La première façon s'appelle l'iftirash, la deuxième façon s'appelle l'iqa. Cheikh Al-Albani va les décrire dans ce paragraphe. ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب. Ensuite, il se relève la prosternation en levant sa tête tout en disant Allahu Akbar. Et ceci est une obligation. ويرفع يديه أحيانا. Il lève tout en se relevant. Il peut lever ses mains. Il peut les lever, parfois. Car la Sunna indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains parfois. ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم الى موضعه وهو ركن. Ensuite il s'assoit jusqu'à connaître l'apaisement, jusqu'à ce que chaque os retrouve sa place d'origine, jusqu'à ce que chaque membre s'apaise, et ceci est un pilier.